n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
Et aujourd'hui Adèle, j'aimerais vous parler du sourire, le pouvoir du sourire, la puissance du sourire, la force du sourire, l'importance du sourire. Ce sont quelques-unes des formules sur lesquelles je suis tombée en faisant des recherches sur le sujet suite à un événement qui m'était arrivé quelques heures auparavant. Quelques heures auparavant, en effet, en pleine circulation dans Paris, un cycliste m'avait gentiment lancé
« Arrête de faire la tête, souris, tu vas voir, ça va te faire du bien !»
Une agression sous forme de conseil, rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, là, je me suis dit qu'il avait peut-être raison. Pourquoi ne pas sourire? Pourquoi ne pas afficher un air heureux qui pourrait éviter ce genre d'altercation? Mais pourquoi? Pourquoi afficher seulement un sourire? En quoi cela serait-il déterminant?
Un sourire nous semble peu de choses et sans effet sur l'humeur. Aussi, ne l'essayons-nous point. Mais la politesse, souvent, en nous tirant un sourire et la grâce d'un salut, nous change tout. Le physiologiste en sait bien la raison, car le sourire descend aussi profond que le bâillement et, de proche en proche, délie la gorge, les poumons et le cœur. Le médecin ne trouverait pas, dans sa boîte à remèdes, de quoi agir si promptement, si harmonieusement. Alain.
En tapant « sourire » sur mon moteur de recherche internet, je ne pensais pas trouver autant de littérature sur le sujet. Il faut le dire, malgré sa profusion, elle est assez monotone. Car en fait, tout le monde s'accorde sur les bienfaits du sourire, citant au besoin cette pensée du philosophe Alain qu'on vient d'entendre et misant tous sur cette idée centrale, le lien fondamental entre sourire et bien-être. Assez évidente, cette idée ne fait que décrire le fait que quand on va bien, on sourit spontanément. On est heureux et notre attitude, notre visage révèle ce bien-être. Mais plus maligne que ça, cette littérature va en fait plus loin puisqu'elle postule le rapport inverse. Quand on va mal, sourire pourrait en retour nous faire aller mieux. Ce qui revient donc au conseil du cycliste que j'ai rencontré. Mais je me suis demandé, est-ce si vrai? Sourire peut-il, suffit-il à rendre heureux? Se dire qu'il faut sourire et le faire, et s'y forcer et s'y contraindre, n'est-ce pas le contraire du bien-être profond, intérieur? N'est-ce pas qu'une façade qui fait écran à notre être?
Comme vous le savez peut-être déjà, le sourire a énormément de bienfaits. Il permet de comprendre beaucoup de choses, de dire oui à la vie, de faire passer plein de messages. Et par exemple, il peut réjouir un désespéré.
En lisant, mais aussi en regardant tous ces conseils prodigués pour apprendre à sourire, j'ai été frappée par une chose, la tristesse qui s'en dégageait. Il y a quelque chose de profondément paradoxal quand on parle du sourire ou quand on l'encourage à le faire. Sa dimension mécanique, son côté forcé, pas authentique, et du coup son aspect pathétique, désespérant et voire même effrayant. J'ai quand même décidé de jouer le jeu, j'ai moi aussi souri, j'ai pensé au fait de sourire, et je l'avoue, je me suis sentie très bête. Car comment réfléchir à quelque chose qui ne se contrôle pas ou ne le devrait pas? Et comment aller mieux en transformant son visage, en y plaquant un sentiment factice? Dans les textes neurologiques et cognitifs sur le sourire, on distingue le sourire réflexe, du sourire spontané, proche du rire, du sourire moqueur, cynique et hautain, du sourire enfin, forcé, qu'on arbore en société. Mais quelle différence faire entre ce dernier, le sourire de société, du sourire qu'on me demande d'afficher pour aller mieux? C'est une vraie question car le développement personnel précise que le sourire pour aller mieux n'est pas le sourire forcé. Et pourtant, quelle différence y a-t-il? Quelle différence y a-t-il entre se forcer à sourire pour ne pas faire de vagues et sourire pour ne plus avoir de vagues à l'âme?
Sourire, sourire, toujours sourire, même si l'on te traite de petit lait. Sourire, sourire, toujours sourire, comme si tu buvais du petit lait. Sourire, sourire, toujours sourire, comme un enfant devant le dessert, comme un chameau devant le désert. Sourire à livre, à lèvres ouvertes.
Au fond, le problème du sourire est celui de l'air qu'on affiche, qu'on devrait afficher pour les autres ou pour soi. L'air qui, comme l'autosuggestion de la méthode Coué, agirait magiquement sur l'âme. Mais le problème, je crois, n'est pas celui de la correspondance entre l'air et l'être, entre l'apparence et l'intériorité. Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux, une causalité. Non, le problème, je crois, est dans cette idée d'autosuggestion par la mimique, par le rictus, par la moue, toutes ces contractions du visage qui le figent, qui n'en font pas l'interface place entre nous et le monde, mais un mur, une barrière. Pire, un mur sur lequel on affiche un simulacre de bonheur qui, loin de le laisser transparaître, trahit en effet un profond malaise. Je continue donc à ne pas penser à l'air que j'ai et ça, ça me fait vraiment du bien.
Vous voyez, ça vous fait sourire, Géraldine. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.